Bonjour et bienvenue sur Radio Caravane, la radio qui accompagne le festival Caravane de Cirque jusqu'au 12 juin prochain.
Aujourd'hui, pour notre troisième émission enregistrée en public à la Grainerie, nous vous proposons d'entrer dans l'univers de différentes compagnies circassiennes qui ont joué ici ces derniers jours.
Des rencontres avec des artistes en tout genre, mais ça sera pour la deuxième partie de notre émission.
Car Caravane de Cirque propose aussi, dans le cadre de lundi solidaire, de créer des passerelles qui nous emmènent hors des frontières, et plus particulièrement lundi dernier en Palestine.
Caravane de Cirque vous invite au Lundi Solidaire, des soirées en co-réalisation entre la Grainerie et Culture en Mouvement. Lundi dernier, c'était Ciné-Cirque, avec la projection d'un film Un Cirque en Terre Sainte. Un Ciné-Cirque en soutien aux initiatives pour la paix en Palestine. Nous y étions. Entre représentation de cirque et musique, les intervenants s'enchaînent pour nous parler de la situation en Palestine. Le cirque, ça défriche aussi des champs des sciences humaines. Petit cours de géopolitique avec de la rubalise, la géorubalise.
On va faire quelque chose de très illustratif pour vous montrer la simplicité de la situation. Je pense qu'on peut la résumer comme ça. Et bien entendu, nous allons nous servir de cette rubalise.
Je vais pas faire comme ça.
Pour signaler les frontières et les liens. D'accord ? C'est tout simple, suivez. Alors, je propose qu'on commence par la Palestine.
Oui, très bien.
D'accord ?
Par la Palestine, mais quelle Palestine ? La Palestine historique ? Palestine actuelle.
Pourquoi il y a... c'est pas pareil ?
C'est pas tout à fait pareil. Dans la Palestine actuelle, il y a l'État d'Israël.
Ah ! Bah alors, je vous propose qu'on fasse ça. On va avec Israël. Allez, c'est parti. Allez. Ok.
C'est plus simple comme ça, mais il y a aussi un petit peu de Liban et un petit peu d'Égypte dans la Palestine.
Ah, alors eux, ce sont les alliés de la Palestine, c'est ça ?
Oui, ils sont alliés, d'accord, mais bon, tout le monde sait ce que c'est un pays. S'il y a possibilité de s'agrandir un peu sur une situation un peu dramatique, on le fait, quoi.
L'Égypte,
oui. Parce que
encore l'Égypte, bon, c'est simple, hein, mais comment dirais-je l'Égypte ? Il y a l'ancienne Égypte,
on va parler pharaon, l'Égypte d'avant la révolution du printemps, d'avant la place Tahrir, tout ça. C'est l'Égypte qui était alliée d'Israël également, en même temps qu'ami de la Palestine. Bon, là, il se trouve que la nouvelle Égypte, on ne sait pas trop, mais a priori, ils vont être quand même plutôt favorables à la Palestine, surtout que, par exemple, ce week-end, ils ont ouvert à nouveau la frontière avec la bande de Gaza.
Gaza ?
Ah oui, ah oui, oui, c'est très simple, mais j'ai oublié de le dire.
Ah ben oui,
oui, sur la Palestine, en fait, il y a deux parties. Il y a la Cisjordanie.
J'ai trouvé Gaza.
Ah oui, et puis il y a Gaza. Alors, il faut savoir qu'en Cisjordanie, c'est le Fatah qui est au pouvoir. C'est le parti de l'ancien président Yasser Arafat, du président actuel Mahmoud Abbas.
Ouais.
Alors qu'à Gaza, c'est le Hamas qui est au pouvoir.
Le Hamas.
Et ce sont deux parties plutôt ennemies. Cependant, pour simplifier encore un peu les choses, ils ont fait un accord de paix là récemment.
Ouais.
Donc le Hamas et le Fatah. On fait un accord de paix.
C'est plutôt une bonne nouvelle, non, quand même.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
J'ai trouvé la bonne nouvelle.
Ah, la bonne nouvelle. Sauf que la communauté internationale, qui est par là, pour l'instant, ne s'emballe pas, si je puis dire.
Ouais.
Pas plus que l'État d'Israël par rapport à cette bonne nouvelle.
Ouais.
Mais face à revenir sur la communauté internationale, on va plutôt utiliser le terme ONU, ce sera plus simple.
D'accord, parce que la communauté internationale, c'est un peu vague quand même. Donc c'est bien.
Alors l'ONU, la position de l'ONU.
Alors, la position de l'ONU, à part d'être accroupie. Qu'est-ce que c'est ?
L'ONU, encore une fois, c'est très simple, hein. L'ONU.
Ouais.
Si jamais un moment dans l'histoire d'Israël va un peu loin, eh ben, l'ONU réfléchit, discute, et au bout d'un moment, l'ONU proteste.
Ah, mais il proteste.
Mais sans sanction.
Il pourrait le protester.
Voilà. Mais attention, il n'y a pas de sanction parce que les États-Unis, en général, opposent leur veto à toute forme de sanction.
Oh, d'accord. Ah oui, les États-Unis sont contre la Palestine.
Les États-Unis, disons Barack Obama, voudraient que la Palestine soit reconnue.
J'ai trouvé Barack Obama.
Voilà, oui, c'est. Yes, c'est clair. Hein, soit reconnue dans ses frontières de 67.
Ouais.
Alors, les frontières, c'est plus petit que ça.
Voilà. Les frontières, les petites frontières.
Alors,
je fais la frontière de 67. C'est un petit carré.
Ouais,
c'est
moi. Ouais, sans elle. Non, non, sans elle. La frontière 67, c'est plus petit. Elle n'y est pas. Ah, enfin, elle est éternisée. Voilà. Ouais, comme ça, voilà. Voilà.
Vous
ça,
connaissez c'est...
Sinon, faites connaissance.
Sans que les États-Unis sont quand même le grand ami d'Israël.
Ouais.
Et que Israël, actuellement, n'est pas favorable à la reconnaissance de l'État palestinien. Ah, ce qui me donne tout de suite l'occasion de préciser, parce que je dis Israël, c'est un raccourci. Je parle du gouvernement actuel en Israël, qui est le gouvernement le plus à droite qu'il ait jamais eu, qui représente lui-même et qui ne représente pas l'intégralité des Israéliens. Il y a en Israël des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique de ce gouvernement, il y a des gens qui souhaitent la paix, il y a des gens qui pensent que la reconnaissance de l'État palestinien va faire la paix aussi en Israël. Mais il y a d'autres États dans le monde, et les autres États, ça varie. Il y en a qui reconnaissent, il y en a qui ont des accords, il y en a qui tolèrent, il y en a qui méprisent complètement. Et ce, même dans les pays arabes, hein, c'est incroyable. Si vous prenez par exemple la Tunisie, et on a fini la rivalise, donc on va finir sur la Tunisie.
C'est bon, je fais des tensions maintenant.
Ah,
il y a des tensions dans le monde. On a des tensions, attendez, il y a des tensions dans le monde, c'est bien.
Je prenais la Tunisie. La Tunisie, par exemple, Ben Ali était un très grand ami de l'État d'Israël, mais Ben Ali a été renversé par son peuple.
Ouais.
Donc peut-être que le peuple tunisien sera représenté bientôt par des dirigeants en accord avec lui sur la position palestinienne. Dans moi, je crois que, vous voyez, le peuple peut quand même choisir un certain nombre de choses.
C'est vrai.
Ça marche ! 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 Il y a des gens qui sont pas libres là-bas ! C'est Barack Obama, il est tout enchaîné !
Me dire comment tu t'appelles.
Oui, je m'appelle Maïs Hajjaj et je viens de la Palestine pour faire des études ici à Toulouse. Voilà.
D'accord. Tu fais des études de cirque ou rien à voir?
Presque. Pas du cirque, mais je fais un master en administration des activités culturelles.
D'accord.
Pour rentrer ensuite et travailler avec l'école du cirque de Palestine. Je suis ici ce soir parce que je fais partie de l'association des étudiants palestiniens ici en France et surtout à Toulouse. Et ensuite parce que je fais partie aussi de l'école du cirque de Palestine en même temps. J'ai commencé avec l'équipe qui a établi cette école du cirque. Et ensuite je suis ici pour des études, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite pour rentrer et travailler avec l'école du cirque. Et pour chaque étudiant palestinien qui est ici à Toulouse, il a le droit d'être avec le GUPS, et c'est l'Union Générale des étudiants palestiniens. Et c'est pour ça que tous les étudiants palestiniens ils sont dans cette association. Et voilà, je fais partie aussi avec cette association. Tout d'abord, cette association, c'est pour aider les étudiants palestiniens à l'étranger, si on peut dire. Le GUPS fait des événements, des soirées pour faire connaissance sur la Palestine ou bien la situation en Palestine. Et aussi, ça c'est très bon parce que moi j'ai rencontré des Palestiniens qui n'ont jamais vécu en Palestine, qui ont vécu dans des camps de réfugiés en Liban, des autres qui viennent de, je sais pas, comme la Belgique, qui sont des Palestiniens, des origines palestiniennes, mais ils ne peuvent jamais rentrer en Palestine. Et comme ça, c'est vraiment intéressant de voir, de discuter, comme ils demandent, mais c'est comment la Palestine maintenant et tout ça.
Et alors justement, c'est comment la Palestine maintenant? Est-ce que la situation a évolué? Est-ce qu'il y a du changement?
Par rapport aux situations politiques, il n'y a pas de stabilité, si on peut dire, politiquement. Mais je pense au niveau culturel, on peut voir vraiment qu'il y a un mouvement fort en Palestine. Comme on a vu, il y a une école du cirque là-bas. Il y a même plein de bandes de musique, de danse, des compagnies de danse et tout ça. Et on voit pas souvent ça sur la télévision ou bien sur les médias. On voit plutôt les choses politiques, agressives et tout ça. Mais de faire savoir qu'il y a des Palestiniens qui sont intéressés à vivre, avoir l'espoir de faire quelque chose de culturel, c'est une autre chose. Et c'est ce que l'école du cirque de Palestine essaye de montrer. De peut-être faire connaissance de la Palestine avec l'art aussi, parce que c'est une langue internationale. Voilà.
D'accord. Donc toi, tu es ici encore pour combien de temps ?
J'ai presque fini ma première année et il me reste encore un an.
D'accord.
Et comme ça, après, je vais rentrer en Palestine. Voilà.
Pour continuer le cirque ?
Oui.
Avec l'école ?
Avec l'école du cirque de Palestine.
Ok.
Franchement, je suis fière de faire partir de cet projet-là.
Tu peux. Il y a de quoi être fière.
Le cirque nous aide à obtenir un peu plus de réussite. Toutes ces petites victoires, rassemblées comme les pages d'un roman, nous aideront finalement à obtenir notre indépendance. Créer a toujours été un choix du peuple palestinien pour garantir sa présence ici, prendre son destin en main afin d'affronter l'occupation. C'est d'ailleurs la nature de l'être humain où qu'il se trouve. Depuis toujours, l'acte de création rassemble les peuples qui aspirent à la liberté et à la dignité. Créer, c'est donc un moyen de vivre dans la paix, sur le même pied d'égalité.
L'Union juive française pour la paix est une organisation modeste, mais géniale, comme dirait Daniel Mermet, qui essaie d'expliquer que le conflit au Moyen-Orient n'est ni religieux ni ethnique, c'est un conflit politique et colonial. En tant qu'organisation juive portant une parole juive laïque, nous sommes catastrophés de voir un conseil qui se dit représentatif des institutions juives de France et qui se solidarise systématiquement et automatiquement avec un État dont il apparaît clairement que sa politique est non seulement criminelle, mais même suicidaire, dans la mesure même où on ne peut pas imaginer avec de telles pratiques qu'une communauté juive pourrait vivre dans la paix au Moyen-Orient s'il poursuivait dans cette voie. Donc nous sommes pour faire respecter le droit de tous les peuples, y compris le droit du peuple palestinien. Et c'est pour ça qu'en tant qu'organisation, luttant pour le vivre ensemble, un véritable vivre ensemble, que ce soit là-bas ou ici, nous sommes partie prenante de la solidarité avec le peuple palestinien, comme nous sommes d'ailleurs en France partie prenante des luttes pour les droits des peuples et pour les droits des personnes. C'est pour ça que, par exemple, on soutient le réseau Éducation sans frontières, ou que nous étions samedi avec la manifestation d'ailleurs, nous sommes d'ici.
Alors, c'est une association nationale ?
Oui.
Donc, vous, à Toulouse, vous menez quoi comme type d'action ?
Alors, très franchement, l'activité essentielle de l'association en tant qu'association strictement est plutôt de tenir une parole, de diffuser un bulletin, de diffuser une revue qui s'appelle De l'autre côté. Sinon, nous sommes surtout, bien évidemment, plongés dans les collectifs où nous estimons porter une parole particulière, mais qui entre dans le concert général de la lutte. C'est pour ça que, par exemple, en ce moment, nous sommes à la fois dans le soutien à la flottille de la liberté qui part pour Gaza, ou que nous sommes dans les campagnes qu'on appelle maintenant BDS, c'est-à-dire boycott des investissements sanctions.
Alors d'abord, un petit mot sur la flottille. C'est la deuxième ou je me trompe ?
C'est la deuxième. Il y a déjà eu d'autres bateaux individuellement, si j'ose dire, qui ont essayé de franchir le blocus. Certaines, d'ailleurs, embarcations avaient réussi à un peu déjouer dans un certain silence. Là, l'année dernière, comme on le sait, le 31 mai 2010, c'est une flottille de 8 bateaux qui a été arraisonné dans les eaux internationales de façon, c'est de la piraterie d'État, c'est un crime de guerre qu'a commis l'État israélien avec à la clé 9 morts turcs et quelques dizaines de blessés. C'est quelque chose qui probablement a beaucoup desservi l'image de la politique israélienne. Ça se retourne, effectivement, cette politique-là se retourne contre ses auteurs. Et cette année, c'est une flottille plus importante, avec notamment un bateau français qui partira dans la deuxième quinzaine de juin.
Alors, concernant également la campagne BDS.
En fait, l'idée du boycott traîne depuis des années. L'appel des Palestiniens date de 2005. Il y a maintenant 171 organisations palestiniennes, de la société civile palestinienne, tous les partis, mais aussi les associations, les syndicats, qui appellent à cette campagne de boycott, bien sûr avec en référence la campagne de boycott contre l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et cet appel est repris de façon de plus en plus massive, en particulier en Europe. Certains pensent qu'il faut d'abord se concentrer sur les produits des colonies qui sont illégales et qui ne devraient pas bénéficier du label Made in Israel, ce qui est parfaitement illégal. Mais d'autres pensent que toute la société israélienne bénéficie de la colonisation. Et donc la campagne BDS France, par exemple, à laquelle nous sommes également associés, appelle au boycott de l'ensemble des productions. Mais surtout, il faut bien être d'accord qu'on n'a pas un espoir mythique qu'en boycottant simplement les fruits et les légumes ou même les produits de beauté, on va réussir à faire canner l'économie israélienne. C'est une action politique qui vise aussi à dire à nos dirigeants, nous faisons cela, mais vous êtes, vous, dans le déni de justice en ne pratiquant pas le désinvestissement, en continuant à investir et à coopérer avec l'économie israélienne et en ne pratiquant pas de sanctions et en maintenant cette impunité israélienne. Donc le boycott est dirigé bien sûr en direction de la population israélienne en leur disant vous ne pouvez pas espérer que l'opinion internationale ait un quelconque respect pour un État qui a une telle politique, mais il est dirigé au moins autant vis-à-vis de nos propres gouvernements en leur disant l'opinion de l'ensemble de la population est maintenant massivement convaincue qu'Israël mène une politique criminelle qui doit être arrêtée, des sanctions doivent être prises, les instruments juridiques existent, les criminels de guerre doivent être poursuivis quand ils sont israéliens comme quand ils sont d'un autre pays, les sanctions économiques sont possibles, l'accord d'association par exemple entre Israël et l'Union européenne ne devrait pas continuer à fonctionner alors même que son article 2 prévoit qu'il suppose le respect des droits humains de la part des partenaires.
Voilà, alors puisque nous sommes en direct à la Grainerie, nous avons avec nous aujourd'hui un artiste israélien présent en ce moment, Michael Finkel, qui est artiste de cirque aérien et qui souhaite réagir. Bonjour Michael.
Bonjour.
C'est à toi.
Ah, moi je voulais juste passer un message à l'école de cirque de Ramallah, qui moi je suis artiste de cirque, j'ai travaillé beaucoup en Israël, un petit peu en Europe, beaucoup en Israël, et je connais toutes les circassiens en Israël, pratiquement tous, et la plupart des gens, les circassiens, on a très envie de collaborer avec l'école de cirque de Ramallah, de faire des projets ensemble, et comme la ville de Toulouse est jumelée avec Tel Aviv et avec Ramallah, c'est possible d'envisager aussi des projets de création, des spectacles, des colonies de vacances pour les enfants qui font loisir de cirque ici et ailleurs, à l'extérieur d'Israël, où c'est plus difficile pour nous à se rencontrer. Mais il y a juste, je voulais dire qu'il y a, beaucoup une envie en Israël, dans les milieux des cirques, à collaborer et travailler avec les cirques à Ramallah. Il y a une école de cirque à Nablus aussi. Et mois de juillet, il y a une rencontre des écoles de cirque en loisir qui se fait dans la ville qui est de Akko, qui est une vieille ville juive et arabe. Et il y a une rencontre de 3 jours des élèves de toutes les écoles de cirque en Israël, dans laquelle il y a des écoles de cirque arabes, palestiniennes, mais arabes qui habitent en Israël. Et bien sûr, l'école de cirque de Ramallah est invitée, et l'école de cirque de Nablus est invitée. Et on sera très contente s'ils viendraient.
Bon, bah alors l'appel est lancé. On espère qu'un projet se réalisera.
On écoute maintenant All That Jazz, la boîte de jazz de Josepha.
Five, six, seven, eight.
Changement de ton et de décor, maintenant nous vous embarquons dans le monde des petits bras pour un spectacle de haute voltige chaplinesque entre humour et trapèze aérien. Séance de dédicace après le spectacle des petits bras, ça vous a plu madame?
Ouais, c'était vraiment très bien. Drôle et poétique. Merci.
Drôle et poétique, ah, c'est pas mal comme compliment, ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
Ah, une affiche?
Alors, qu'est-ce qui a envie de faire du trapèze? Ça vous a fait peur un peu?
Oui, parce qu'à un moment, on avait cru qu'elle allait tomber. C'est impressionnant.
J'ai failli tomber. Je suis même tombée, mais là, vu qu'il y a une longe, enfin une corde de sécurité, du coup, je l'ai rattrapée de justesse. Mais ouais, sinon, je tombais. Ouais.
Alors, pour faire connaître un peu à ceux qui ne connaîtraient pas encore les petits bras, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de
alors,
quoi il s'agit?
Alors, on est une compagnie donc de spectacle de rue. On fait principalement ça. Donc Triplette, c'est notre quatrième création. On existe depuis 2003. Et voilà, au départ, c'était trois copains passionnés de trapèze volant à la base, donc avec filet, tout ça, comme il y a ici, d'ailleurs, à la Grainerie. Et en fait, on voulait faire un spectacle, sauf que c'était très lourd, l'infrastructure de trapèze volant. Donc on a décidé de créer une petite forme, en 2003, tout jeune, plein d'ambition et tout. Puis voilà, on a fait ça pendant 3 mois, on s'est enfermé, on a bossé et en fait, ça a super bien marché direct. Depuis ce moment-là, en fait, notre marque de fabrique, c'est vraiment l'acrobatie aérienne de haut niveau. Donc on en voit vraiment de la figure. On est formé dans des hautes écoles et tout ça, mais on rajoute l'humour, qu'on dit souvent belge. Alors nous, on ne s'en rend pas compte, mais apparemment,
oui,
on a un humour.
Vous êtes tous les trois belges.
Donc on a un humour typiquement belge, a priori, qu'on rajoute à toutes ces envolées. Et voilà, ce qui fait que, apparemment, ça donne un spectacle drôle et poétique, comme vient de le dire la dame, donc c'est assez agréable.
Oui, et le public était en éclat de rire du début à la
fin. Voilà, c'est ça. Et comme c'est souvent gratuit, les spectacles qu'on propose, vu que c'est dans la rue, bah, ça permet à tout le monde de voir des spectacles, en fait.
Ah, il y a une autre petite fille pour une affiche.
C'est pour qui ?
C'est pour nous deux.
Ah, pour vous deux, alors. Mais...
C'est assez compliqué, non ? Si c'est du théâtre de rue, enfin des acrobaties de rue, de monter toute cette structure à chaque fois. Ben, est-ce que vous pouvez nous la décrire, comme c'est de la radio ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une structure donc de 8 mètres de haut, style un peu art déco. Et en fait, on est parti de la structure pour créer le spectacle. C'est-à-dire qu'on l'a, ben, y a quelqu'un qui nous l'a construite. On adore son look, on la trouve vraiment tout en métal, un peu brut. Voilà, avec des bouts de ferraille et de câbles partout. Et du coup, ça apportait un côté années 30, voilà, qui nous plaisait beaucoup. Et on s'est inspiré de la structure pour l'ambiance du spectacle, en fait. Voilà.
Et alors, vous connaissez tous les trois depuis quand ? Comment est-ce que ça a vraiment démarré ?
Alors, moi, je connais Mathieu depuis que j'ai 8 ans, donc ça veut dire 24 ans. Voilà. On faisait un spectacle ensemble quand on était gamin, quand on était dans une école de cirque ensemble à Bruxelles. Et Yann, je le connais depuis 2002. Voilà. En fait, Yann et moi, on a créé la compagnie avec une autre personne qui maintenant n'est plus avec nous. Et voilà, et Mathieu, on l'a embauché l'année passée. Et on est super contents. Voilà, il apporte. Parce que nous, on est vraiment le côté technique, précis, tout ça. Puis lui, il apporte un côté drôle, loufoque, déjanté. Voilà.
Alors à découvrir, et votre site, c'est
www.lespetitsbras, les petits bras sans E, donc lespetitsbras.com. Voilà.
Merci Sophie.
Il y a un blog aussi, donc vous pouvez nous laisser des commentaires, tout ça. Voilà.
Super.
Merci. Ouais.
Maintenant, nous écoutons l'un des deux compères de la compagnie Barolo Solo qui nous parle du spectacle Autant d'eau qu'ils ont joué sous le chapiteau du Lac des Pêcheurs à Tournefeuille.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment était ton spectacle aujourd'hui, ce soir ? C'était comment pour
toi ? Ben, on est content, c'est bien passé. Hier, on a fait une à 15h, il faisait très chaud, donc c'était très dur. Et là, il y a un bon public, on était bien dedans, on est content.
Okay. En même temps, c'est un spectacle qui rafraîchit. C'était bien de...
Ouais, qui nous rafraîchit, nous, pas William, sauf à la fin. Ouais. Mais au début, non, quand il fait très chaud, c'est surtout pour le public, c'est dur. Du coup, on a du mal à avoir la concentration, puis le plaisir de jouer, voilà, qui est plus dur à trouver. Donc là, c'était super.
D'accord. Est-ce que tu peux vous présenter en quelques mots ?
Alors, en quelques mots, c'est la compagnie Barolo Solo. Moi, je suis sorti de Chalon il y a 10 ans. J'ai monté en sortant de l'école la compagnie Baro des Velles, qui est une compagnie de la région, et qui était un collectif. Et puis moi, j'ai quitté la compagnie, et comme quand on était à Baro des Velles, entre nous, on se surnommait les Barolo. J'ai appelé la compagnie Barolo Solo. Après, j'ai bossé un peu avec d'autres compagnies, en interprète, on va dire. Et puis là, j'ai décidé de remonter un projet avec William, qui avait travaillé avec nous, avec Baro des Velles, sur Bechtout au début. Voilà, puis on a décidé de monter un duo, et puis voilà, de monter ce spectacle avec un kiosque, avec de l'eau. Donc ça a été un an de création, et puis... Voilà, les premiers ont lieu au mois de novembre avec cette forme sale là. Et puis on vient de faire les premières d'une version. Pourquoi dans l'eau ? Alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un truc avec l'eau. Il y a plein de spectacles que j'ai fait, j'ai toujours fait des choses avec l'eau, je prenais la douche, je buvais monter, enfin voilà. Et puis j'avais envie musicalement aussi de travailler beaucoup sur. J'aime bien travailler sur les univers musicaux et tout ça. Donc l'eau c'était un endroit qui me plaisait beaucoup. Et puis aussi un endroit où j'avais plus envie d'être forcément dans la performance technique du cirque. mais plus trouver la performance ailleurs. Avec l'eau, j'étais sûr que c'était un endroit où on pourrait détourner la technique de cirque. Voilà, pour raconter, pour que le danger soit ailleurs. Là, le danger, il est pas se mouiller et plus forcément dans la performance. Du coup, ça devient une autre performance.
Ouais. Oui, c'est un spectacle très poétique, en fait, je trouve, et la musique est très importante dans le spectacle.
Ouais, bah ça, c'était un vrai choix, parce que moi, je fais de la musique depuis longtemps. J'ai toujours voulu que la musique fasse vraiment partie intégrante du spectacle. C'est pour ça qu'il y a travaillé avec l'eau aussi. Et l'idée, c'était que la musique soit live. Alors, c'était pas possible parce qu'on était que deux et on pouvait pas jouer en même temps faire du cirque. Du coup, on fait un peu des boucles et comme ça, on s'enregistre. Et puis, tout est joué par nous, tout ce qui se passe sur scène. Donc voilà, sur le moment, on le joue ou avant, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a une vraie unité entre le spectacle, la musique. Et puis voilà, sur le spectacle, on rentre, on est des musiciens. Donc c'est ça qui fait le lien.
Et c'est vous deux qui avez créé le spectacle ?
On l'a créé à deux. Après, on s'entoure aussi plein de gens. On a fait des rencontres, on a fait des semaines de travail, de recherche de matériaux avec des clowns, des musiciens, des choses comme ça. Puis après, on a travaillé avec plusieurs metteurs en scène. Voilà, sur différentes parties du travail. Il y a aussi des gens pour la lumière, pour les costumes.
Il y a une grosse équipe.
Il y a une grosse équipe derrière.
Voilà. Vous avez créé ça à l'usine, du coup ?
Pas seulement à l'usine. On a travaillé 15 jours à l'usine. Enfin, on n'a pas travaillé à l'usine. L'usine nous a aidé à créer à Carcassonne, parce qu'il y avait des problèmes de salle, on va dire. On a répété 15 jours à la grainerie. En tout, on a eu pratiquement, 6 ou 7 mois de création répartis sur plus d'un an.
Donc, voilà. Et il y a d'autres spectacles dans la compagnie alors avec
Il y a Otando et Ilo, puis moi j'ai un solo que je tourne depuis 5 ans qui s'appelle Le Chariot au Carré, qui est un solo de rue de 35 minutes, pareil, qui mélange musique et cirque. Donc si c'est quelqu'un qui est avec son vélo, qui est chargé avec toute sa vie, c'est là, il peut se faire à manger, il peut se faire son thé. Il s'arrête et il fait son spectacle tout seul, parce qu'il était porteur, il n'a plus de voltigeuse, donc il porte ses chaises et son violoncelle. Et puis il aimerait bien jouer en Angleterre, donc il fait spectacle en kilt et en anglais pour essayer de jouer en Angleterre. Mais c'est pas trop parler anglais, alors voilà, il se démerde.
D'accord. Et c'est vrai que vous parlez pas non plus dans le spectacle.
Non, c'est un choix pour laisser plus de place à la poésie. Et puis, on avait peur d'être trop bavard. Déjà, l'eau, le cirque et tout ça, les corps racontent pas mal. Donc, on n'avait pas forcément envie d'en rajouter. Puis en duo, c'est plus compliqué le texte, parce qu'on n'est pas comédien. En solo, c'est plus facile parce qu'on s'adresse au public et puis c'est autre chose. Là, dans une conversation à deux, ça ne nous intéressait pas. Le fait de ne pas parler, ça oblige à résoudre les problèmes plus par le clown ou par le jeu que par la parole.
Question, c'est quoi ton meilleur souvenir de cirque ? Oula.
Ouais, mes meilleurs souvenirs, c'est mes souvenirs d'école quand j'ai découvert. Moi, j'ai commencé le cirque hyper tard, à 23 ans. Et je fais d'études scientifiques et je suis rentré à Rony un peu par hasard. Et là, c'était l'éclat. Hein. Je faisais de la bascule, des trampolines, des choses que j'ai jamais fait. Donc pour moi, la découverte, c'était.
On peut commencer le cirque tard alors ?
Eh ben on peut, maintenant moins, parce qu'il y a plein d'écoles. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'écoles, donc on pouvait être un peu nul et à rentrer, il suffisait d'être motivé. Maintenant, il faut être bon et motivé. C'est un peu plus dur.
Un autre spectacle, une autre compagnie. Le Boustrophédon nous livre quelques secrets.
le Boustrophédon. Petite interview sur le vif. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter un peu chacun, vos personnages?
Moi, je vais jouer avec Pétule, ici. Pétule, c'est un des personnages qui joue dans plusieurs versions. Genre, elle a un numéro sur le fil, et puis elle joue dans un spectacle qui s'appelle Cours Miracle, avec ses copains. Et donc, aujourd'hui, elle était avec son collègue Jean-Marcel, elle était sur des patins à roulettes. Et j'ai accompagné Hector en tuba.
Et ben moi, j'étais l'acolyte Jean-Marcel sur les patins. Vous m'avez pas reconnu, moi. Je suis ici incognito.
Et ben, moi, j'étais avec Hector. Et puis, j'ai fait une petite livraison de verre pour Camélia.
Et moi, je suis le pianiste de Camélia.
Donc, Camélia n'est pas avec nous, mais c'était la vieille dame qui danse comme une reine.
Comme une Jones.
Comme une Jones, tout à fait.
Une reine punk.
Et donc, ces personnages, c'est les personnages les mêmes que votre premier spectacle Cours Miracle, que vous aviez joué en 2007.
Ouais, en fait, Cours Miracle, ça tourne encore. C'est le spectacle, entre guillemets, du Boustrophédon. Et puis les personnages, ils ont tous fait par Johanna. Johanna et... Il y en a Pétule et Jean-Marcel, ils jouent dans le spectacle Le Cours Miracle. Camélia, elle sera du nouveau spectacle où il y a déjà cette courte forme qui joue déjà dans les festivals, en rue et tout. Et puis ça, c'est avec Daniel et maintenant une autre comédienne. Ça, c'est un nouveau projet. Et Hector, il est hors cadre, mais dans le même contexte.
Et, ça, c'est joli.
Là, ce qu'on a fait, c'est pas habituel quand on fait ça dans cette constellation-là. Il y a surtout Camélia avec son pianiste qui joue. Et puis sinon, on se retrouve autour du Cours Miracle. Et du coup, faire une autre collectif forme de tout ça, c'est chouette aussi. On l'a fait un peu pour ici. Enfin, ça s'est créé comme ça de puzzle.
Est-ce que c'était spécialement pour la journée devant les enfants, ouais. Spécialement adapté au public enfant ou pas?
Pour tout public.
Ouais.
On a envie de faire des spectacles pour le plus grand. Donc.
Par rapport au fait que vous aviez déjà joué ici pour Caravane de Cirque, qu'est-ce que ça vous fait de revenir? Qu'est-ce qui a changé pour vous?
Ouais, on est pour la plupart de la compagnie installée à Toulouse, du coup c'est quand même le lieu... dans lequel on vient s'entraîner, répéter, créer des spectacles. Et c'est chouette de venir travailler en vélo.
Et du coup, ce nouveau lieu de travail vous plaît?
C'est un bel endroit, ouais.
Ouais, puis on vous reconnaît qu'on a été accueillis ici bien, quoi.
Enfin, on a...
oui, je sais pas si c'est superlatif.
C'est un peu chez nous, quoi.
Mais on est vraiment bien, bien accueillis, quoi, ici.
C'est un peu à la maison, quand même.
C'est un peu à la maison, là.
Ouais. Et puis, on travaille beaucoup ici, autant en entraînement libre, autant là, Camélia, ils ont ici beaucoup en résidence. Et puis, nous aussi, de temps en temps. Donc, c'est la base, une base de chute.
Petite question à propos de votre nom. Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a une réponse à la fin?
Non, il n'y en a qu'une.
Il y en a plein de possibles. Après, il y en a plein qui nous plaisent. Et puis, il y en a une qui est vraie. alors, pour de vrai, c'est une manière d'écrire. En alternant les lignes, en écrivant de gauche à droite et de droite à gauche. Donc, ça fait une espèce de méandre, sans jamais sauter de ligne. Et voilà, et puis le mot, logiquement, ça vient, c'est grec. Boustro, c'est le bœuf, et Fédon, c'est le chemin. Donc, c'est le chemin du bœuf dans le champ, avec la charrue, qui fait le même dessin en méandre. Voilà, ça c'est le vrai mot, donc vous avez appris quelque chose.
Oui,
c'est
merci.
Un boustrophédon, ça s'utilise encore dans les textes codés. Comme ça, c'est un codage en plus par-dessus un autre code.
D'accord.
Le premier s'appelle Camélia et son pianiste, mais je vais laisser parler Daniel. Puis le second, il s'appelle Oulou, et il y a Johanna et puis Mathieu qui sont là, bien placés pour en dire un mot.
Alors Camélia et son pianiste, c'est le numéro que vous avez vu ce soir, hein, qui dure une vingtaine de minutes et qui avait été conçu en fait plutôt pour la rue. Il y a un autre projet qui est un peu issu de ça dans la démarche, qui s'appelle Camélia, titre provisoire pour l'instant, parce qu'on ne l'a pas encore complètement nommé, et qui doit être un spectacle entre 60 et 80 minutes. Alors c'est un spectacle qui voudrait peut-être parler un peu de la vieillesse, mais pas complètement non plus de la vieillesse, plutôt de l'humanité, de qui on est, comment on avance les uns et les autres. Mais pour faire ça, on a quand même eu envie de rencontrer des personnes âgées, qui ont à la fois de l'expérience, peuvent nous donner de la matière et puis nous permettre de réfléchir sur le sens de la vie, pour le dire comme ça. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas le faire, mais enfin, en tout cas, là, il y avait aussi pour nous un moyen de concentrer un peu les éléments. Et donc, on travaille pour préparer ce spectacle en lien avec des maisons de retraite, avec des personnes âgées. Au départ, c'était plutôt faire des ateliers avec ces gens-là, pour essayer de récupérer de la matière pour nous, fabriquer des choses. Puis chemin faisant, on s'est aperçu qu'on aimerait bien les intégrer dans le spectacle, petit à petit. Et voilà, pour le moment, c'est plutôt ça la perspective, c'est de prendre à chaque fois du temps avec un lieu artistique et une maison de retraite associée ou un foyer d'accueil pour travailler avec les personnes âgées, les faire monter sur le plateau pour le spectacle. Voilà. Le spectacle va sortir mi-octobre,
d'accord.
Début octobre,
à Ramonville. Et ben voilà, après nous, le deuxième projet, ça s'appelle pour l'instant titre provisoire Houlou, et ça sortira, on espère, en 2013. Et voilà, et ça parle de la folie. On parle autour de la question, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui est normal pour les uns, qu'est-ce qui l'est pour les autres. Et voilà, enfin, pour l'instant, on s'embarque là-dedans.
Un laboratoire.
Voilà, on est au stade du laboratoire, on essaye plein de trucs et...
En fait, moi, je fais d'autres choses à côté du Bousson Fédon. Par exemple, on a une fanfare de plusieurs compagnies. On est plus des comédiens, des circassiens. On fait de la musique. Et puis, on va rejouer ici dans le cadre de Caravane Cirque le 4 juin.
Enfin,
ça s'appelle Matuba ou alors Harmonie Populaire. Et voilà, vous allez voir le 4 juin. Ici, c'est à 22h, je pense, dans le patio.
Je peux vous demander quel est votre meilleur souvenir de cirque ou votre pire dans votre carrière artistique jusqu'à maintenant ?
C'est toujours des blessures, c'est des trucs comme ça. Ça, il y en a un appel. Et les meilleurs souvenirs, ben, en l'occurrence, du coup, c'est quand ça fonctionne et quand ça fonctionne tout seul.
Quand les gens ils ont la banane à la fin du spectacle, qu'ils ont rigolé, qu'ils ont pleuré, qu'ils ont applaudi, qu'ils ont vécu des trucs et puis qu'ils repartent avec des étoiles dans les yeux.
Qu'on en arrive à être au-delà du cirque, mais vivre vraiment les choses qui se passent. C'est pas que par rapport aux disciplines du cirque, c'est un peu tout. Si vous voyez le spectacle, il n'y a pas que du cirque, il y a la marionnette, il y a de la musique, il y a du jeu. Et enfin, c'est souvent quand ça se mélange avec l'état ou le jeu, les disciplines, autant la marionnette ou le cirque, et que du coup, c'est au-delà de ce qu'on avait prévu de faire. C'est du spectacle vivant, ça se passe maintenant et que c'est ça l'échange avec le public. Et quand ça c'est là, c'est hyper fort comme sensation, autant pour nous que pour le public.
Radio Caravane, le cirque, note à note.
Je suis avec Laurent et Valérie qui sortent de scène là au théâtre du Grand Rond et qui viennent de jouer pour nous Couple ouvert à deux battants. Donc c'est une pièce de théâtre initialement écrite par Dario Fo et sa compagne, dont j'ai oublié le nom.
Franck Aramé.
Et donc bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors déjà ma première question c'est pourquoi avoir choisi ce texte-là et qui parle des rapports amoureux ? Un peu compliqué hein, entre les personnages que vous interprétez.
Déjà, on est un couple dans la vie, donc on avait envie
de parler du couple. Et ce texte nous a vraiment parlé quand on l'a lu pour la première fois. Et il nous a amusé de jouer un couple en pleine crise conjugale.
Oui, il y avait comme on est un couple dans la vie, on est marié, on s'aime, mais bon, ça aurait été peut-être trop évident et trop facile de parler de l'amour idyllique qui se passe bien et tout. Donc nous, comme on aime bien jouer des trucs qui sont loin de nous, jouer une scène de ménage, jouer un couple au bord de la rupture, c'était plutôt il y avait quelque chose d'amusant en fait.
Ah, donc vous nous rassurez, ça va, c'est pas votre quotidien qui est comme ça. Ouf. Et moi, ce que, alors, autre chose, c'est que vous venez tous les deux du cirque, et on a l'impression là que c'est plutôt un prétexte, le cirque, en fait. À, voilà, autant toi, Valérie, pour quand tu mets ton nez de clown. Donc, pourquoi avoir joué comme ça sur le décalage, pas forcément utiliser le cirque comme on l'attend, en fait?
En fait, on est parti dans le cheminement de la création, on est parti du texte, on a d'abord travaillé sur le texte et dire le texte avec notre metteur en scène qui vient du théâtre classique même. Et donc on est parti de ce texte et le cirque s'est rajouté après en fait. Et donc quand on a imaginé à quel moment il pouvait s'intégrer le cirque, on a toujours essayé de trouver les moments justes et que ce soit vraiment opportun et que ce soit vraiment dans la logique, dans la dramaturgie de l'histoire et jamais que le cirque fasse que copier-coller. Donc c'est vrai qu'il y en a peu, c'est par petites touches, mais à chaque fois c'est assez justifié et c'est... Ça illustre plus que... C'est plutôt peut-être illustratif, mais au moins, c'est le cirque arrive en finesse, j'ai l'impression.
Ouais, moi, je trouve aussi qu'on pourrait s'attendre... Souvent, quand on voit un spectacle de cirque, il y a de la performance, de la technique. Là, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Mais c'est moins présent. C'est vraiment votre jeu d'acteur qui est mis en valeur. Alors, comment vous avez... Donc, c'était votre troisième représentation. Est-ce que c'était le premier spectacle où vous faisiez autant de théâtre, en fait?
Oui, oui, bien sûr, c'est la première fois qu'on joue un texte entièrement d'auteur. D'habitude, on avait dans nos spectacles de cirque, déjà on travaillait en collectif, à toujours une dizaine de personnes, et on aimait bien quand même parler, il y avait des dialogues, mais c'était plutôt des choses spontanées qui venaient dans des créations, et on avait quelques phrases, et du coup on a eu envie d'explorer un peu plus profondément le texte, parce que ça nous intéressait vraiment le théâtre, le jeu théâtral. Et là, on s'est lancé un peu un défi d'essayer de faire une pièce en entier en y incorporant notre cirque.
Qui l'a dit? Personne, personne! Personne, j'ai trouvé tout seul! J'ai dit ça par hasard et je suis tombé pile poil dans le mine! Oh, 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 oh. L'atomiste qui joue du rock. Mais moi, je ne sais même pas chanter.
Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec ce metteur en scène-là pour cette création?
Oui, il s'appelle Jean-Marc Layer, Jean-Marc Layer, et on le connaissait depuis longtemps parce que lui, il était élève au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris, à l'époque où nous étions au CNAC, au Centre National des Arts du Cirque de Chalon-sur-Marne, et à l'époque, il y avait des correspondances entre le Conservatoire et le CNAC, et donc lui a pu bénéficier d'une année au CNAC en tant qu'élève du Conservatoire, il a bénéficié de la formation du CNAC pendant un an. C'est là qu'on s'est rencontrés, on a noué des liens et puis on s'était toujours dit qu'on se retrouverait sur des projets. Et c'était l'occasion là.
Alors aussi quelque chose dans votre spectacle d'intéressant, c'est l'omniprésence de la musique. Donc aussi bien toi Valérie quand tu chantes que toi quand tu fais de la batterie à un moment. Et tout à fait. Et Franck à côté, donc qui fait partie intégrante du spectacle, qui est comme ça deux fois appelé et qui fait toute la musique en temps réel. Alors expliquez-nous un petit peu ce travail, comment ça s'est passé pour vous avez tout composé.
Mais c'est surtout lui qui il est là depuis le début des répétitions et il s'est installé avec tout son matériel de bruitage, de sonorisation, de la guitare. Et du coup, il est là depuis tout le temps. Il fait des propositions très riches et en permanence. Et ça s'est créé comme ça, en fait. La bande sonore de son du spectacle s'est créée comme ça. À chaque session de travail, il amenait des nouveaux sons, des nouvelles musiques. Et, en fait, il a toujours été avec nous dans la création.
Donc, c'est aussi amené à évoluer au fur et à mesure que vous allez faire jouer ce spectacle, peut-être.
Oui, oui, puis c'est un peu dans l'esprit du spectacle et ce qu'on a envie de montrer. C'est du théâtre, mais c'est du théâtre où on montre un peu les coulisses et on montre, j'ai envie de dire, la couture, quoi, comment ça se fabrique. C'est un théâtre qui se fabrique à vue à des moments. Donc on n'hésite pas à interpeller le musicien, on lui demande même de nous faire des ambiances, comme ça les gens ils sont un petit peu témoins de comment ça se construit.
Concernant le cirque des accordés, là, donc ça fait très longtemps qu'il existe quand même.
Voilà.
Vous pouvez nous en dire un petit mot sur peut-être l'itinérance, puisqu'apparemment vous avez mis longtemps avant de trouver le lieu dont on parlera après.
Mais en fait, pendant des années, nous avons tourné en gros collectif avec un chapiteau, des caravanes, des gros spectacles. Et à un moment, on a eu envie un peu de poser nos valises. Et on a cherché un lieu, et notamment on a trouvé dans le Gers. Il y en a pas mal qui sont originaires du Gers. Donc on a trouvé un lieu qui s'appelle le Garage, qu'on est en train de mettre en place et bon, qui commence à être bien pour répéter. Voilà, je pense qu'il ouvrira officiellement au mois de septembre. Et en plus, chacun de nous a eu envie de développer des projets plus personnels. Donc d'ailleurs, il y a un autre spectacle dans Caravane de Cirque qui s'appelle « Ce qu'on oublie dans l'armoire ». C'est un spectacle d'un trio clownesque qu'il faut aller voir aussi, qui est super. Et voilà, chacun a développé des projets plus personnels, plus individuels, avec moins de monde et plus du tout sous chapiteau.
Et également d'autres activités un peu annexes. J'ai vu des stages d'initiation au cirque. Donc ça, c'est un nouveau, peut-être, challenge pour vous. Je ne sais pas.
Oui, j'adore les challenges. Hein, ça. C'est un challenge qu'on relevait déjà au cours de nos tournées. On avait un chapiteau. Donc souvent, quand on allait jouer dans des villes, on était invité par des théâtres et on nous demandait de développer ce côté formation, initiation. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours fait, des fois avec plus ou moins de plaisir, parce que c'était des fois un peu imposé. Mais là, c'est vraiment un choix maintenant de développer la formation et l'initiation. En tout cas, nous, avec Valérie, on le fait de plus en plus. Là, on a déjà commencé à le faire dans Gers, on y prend beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment c'est complémentaire à l'exercice d'être sur scène. Enfin, moi, ça m'apprend beaucoup en tant qu'artiste, créateur, de transmettre.
Mais je vous remercie à tous les deux. Et puis donc, on invite les auditeurs de Radio Caravane à venir vous découvrir le couple ouvert à deux battants et ce qu'on cache dans l'armoire.
Ce qu'on oublie dans l'armoire.
Vous, c'est ici au Théâtre du Grand Rond, et ce qu'on oublie dans l'armoire, c'est à la Grainerie, il me semble.
C'est ça.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Radio Caravane.
Le tempo du cirque nouveau.
Après 2 années à bourlinguer à travers le monde, ils sont escale le temps du festival afin de nous présenter leur spectacle Showtime, c'est les Sprockets. Bonjour Sprockets, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
Je m'appelle Isabelle.
My name's Scott, I'm from Bath in England, and I'm half of the Sprockets, and we're here in Toulouse today to do our fantastic show, come and see, 5 o'clock.
Le spectacle, c'est un spectacle de mélange de techniques de cirque et de comédie. Et on vient de finir un tour du monde, donc on s'est installé ce matin à Mondonville où on montre une photo-exhibition de 12 ans de voyage autour du monde. Et ensuite le spectacle. Le spectacle, faut venir le voir.
Donc voilà, on parle de votre spectacle, Les Sprockets, qui a fait le tour du monde à bord d'un bus vert, un Decker de 1962. Et pouvez-vous nous raconter comment l'idée est venue en fait de faire le tour du monde?
Voilà, dans mon marvelous français, nous commençons en Angleterre, vraiment faire le route à tout le pays, France, Italie, Grèce, Turquie. Et nous trouvons le document pour passer Iran, Pakistan, India. Et quand nous arrivons en Australie, nous avons un petit problème avec le visa, mais nous partons pour Nouvelle-Zélande. Après, continuer la route de Sud-Amérique, Nord-Amérique, et maintenant retourne en Europe, et maintenant en France, pour faire notre spectacle pour vous.
Voilà. Donc, vous avez depuis 1997, vous avez été sur les routes jusqu'en
2008. En fait, on est parti en 1997 en pensant qu'on allait en Australie et qu'on revenait en 2 ans plus tard. Finalement, quand on est arrivé en Australie 4 ou 5 ans plus tard, on s'est dit pourquoi pas continuer et appeler le tour du monde. We were petrified.
so long and we grew strong. Now our money is all gone, but now we're back with our blue case. And did you dare stand with that and look upon your face? We could have charged for the seats, we could have paid for the show, but we knew if we could trust you all. Pay before you go, so here's our hat, here's our shoes. Show, how could you turn around? Give thanks to us and go, no, 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 we will survive.
Donc voilà, le bus en fait qui fait office de cuisine, de chambre, de bureau, de... Vous avez vécu en fait non-stop pendant 12 ans dans un bus vert.
Ouais, nous avons le petit panneau solaire, nous, quelques batteries. C'est vraiment de luxe, l'accommodation. Mais j'ai pas la piscine dedans, mais tu parking à côté de la lac, là c'est ton piscine, non? Ça c'est bien.
Il a une vitesse maximale de 50 km.
Au fil de l'aventure, vous avez rencontré beaucoup de personnes.
Oui, nous avons rencontré beaucoup d'autres artistes qui ont fait le spectacle de cirque. Voilà, mais le spectacle, il change. Quand tu voyages dans le pays, il regarde le spectacle un peu, le public s'échange un peu. Et qu'est-ce que tu fais dans le spectacle, tu changes ça aussi. En Nouvelle-Zélande, par exemple, si tu fais un petit peu de jonglage, il est vraiment excité. Et si le marche la même chose en Chili, quand la personne il fait le spectacle de jonglage à le feu rouge. Et presque tout le feu rouge, il y a un jongleur dans Sud-Amérique. Ouais. Là, c'est pas ici, mais il y a plein de changements.
Pierre Maurice Nouvelle, qui est un très très bon clown, nous avait un petit peu aidé à travailler le spectacle avec lequel on est parti. Et en rentrant, on l'a recontacté, on lui a dit on aimerait refaire des changements sur le nouveau spectacle enfin, qu'on a monté le long. Et donc on vient de passer un mois avec lui à retravailler tous les changements, tout le jeu d'acteur entre les techniques. Voilà, donc c'est un petit peu pour nous aujourd'hui une première du nouveau spectacle. On peut regarder les photos du voyage sur www.thesprockets.com.
Et maintenant, voici le programme de cette semaine. Alors ce soir, lundi, venez nombreux au loto artistique de soutien à l'association Réseau Sans Frontières.
Ensuite, on continue le mardi à 19h, Carpe Diem Rivage, au chapiteau Grainerie Balma. À 20h30, les acrostiches C'est quoi ce cirque à la salle Grainerie de Balma. 21h, Aoui, Petrolina et Mascarpone au Théâtre du Grand Rond de Toulouse. Ensuite, 21h également, sélection Festival Mondial du Cirque de Demain au Lido et c'est gratuit. Et à 21h, Cirque Oblique, Out à Cornebarieux.
Alors mercredi, il y aura Chimère sur les planches à Auconville, c'est gratuit. À 19h, Carpe Diem Rivage au Chapiteau Grainerie Balma. À 20h30, des acrostiches avec C'est quoi ce cirque à la Grainerie Balma. 21h, Aoui Petrolina et Mascarpone au Théâtre du Grand Rond à Toulouse. Et à 22h, un concert avec Electro-Orchestra au Patio de la Grainerie à Balma et ses participations libres.
Le jeudi 9 juin à 17h, The Sprockets Showtime à Colomiers et c'est gratuit. À 19h, le cirque Désaccordé, ce que l'on oublie dans l'armoire, au chapiteau de la Grainerie à Balma. À 20h30, Cirque Oblique, à août, avec un concert de l'Herbe Folle, au Chapiteau, à Corne-Barieux, et c'est gratuit. À 20h30, les acrostiches, c'est quoi ce cirque, à la Salle Grainerie à Balma. Et à 21h, à Oui, Petrolina et Mascarpone, au Théâtre du Grand Rond Toulouse.
Et vendredi, bientôt la fin du festival, ne manquez pas à 20h30 les acrostiches, c'est quoi ce cirque, à la Grainerie. Et à 21h, à Oui, Petrolina et Mascarpone, au Théâtre du Grand Rond, à Toulouse.
Le samedi 11 juin à 21h, à Oui, Petrolina et Mascarpone, au Théâtre du Grand Rond de Toulouse.
Et du 8 au 12 juin, début de la fête du Lido, donc ce sont les élèves du Lido qui vous présentent leur spectacle. Et c'est gratuit.
L'équipe de Radio Caravane, c'est
Clémentine,
Solène,
François,
Marc,
Carole,
Antoine,
Valérie,
Stéphane,
Younes,
Lise,
Alexandra,
Alice,
François Allétru également,
et Carl.
Merci à vous et à la semaine prochaine.
Salut.